BFM Business, Focus Retail. Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle émission de Focus Retail. Et au programme aujourd'hui, cap sur les pharmacies. On en compte 20 000 en France aujourd'hui. 40% d'entre elles sont rattachées à un groupement. Certaines d'entre elles deviennent d'ailleurs de vraies enseignes. Et à l'heure justement où la pharmacie s'inspire de plus en plus du retail pour conquérir des clients et augmenter son trafic en magasin, quelles sont les clés de cette nouvelle manière d'opérer? J'aurai le plaisir de recevoir Emmanuel Chauffleur. Il est président d'Aprium Pharmacie. Il nous expliquera son approche et comment est-ce qu'il envisage de passer à la vitesse supérieure. Et puis, on reste dans la santé et le bien-être pour cette deuxième partie d'émission où j'aurai le plaisir de recevoir le cofondateur de Morphée, Guillaume Baraton. Il a créé une petite boîte qui permet de mieux dormir, entre autres. Il nous expliquera tout ça en plateau. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Chauffleur. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Vous êtes le président de LC Group, maison mère d'Aprium Pharmacie. Notre experte retail cette semaine, c'est vous, Isabelle Vantard. Vous êtes directrice des solutions Data Europe chez Vusion. Alors, Aprium Pharmacie, c'est un réseau de 530 officines en France. Ça a été fondé en 2006. Ça appartient donc à LC Group. C'est un modèle hybride composé de pharmacies, mais aussi d'acteurs du retail. Acteur du retail, qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel?
Alors effectivement, on revendique un modèle hybride dans le sens où nous faisons travailler ensemble des acteurs du retail. Donc ce sont des gens qui viennent de grandes enseignes classiques et nous les faisons travailler avec des pharmaciens en exercice au sein des pharmacies Aprium. Donc la combinaison de ces deux expertises, retail d'un côté et pharmacie de l'autre, nous permet de proposer à nos adhérents le meilleur des deux mondes.
Donc des personnes qui viennent de chez Leclerc, de Carrefour,
exactement, de la grande distribution et qui vont venir importer les recettes qui peuvent être importées dans le milieu de la pharmacie.
Et les formules gagnantes. Alors, vous vous apprêtez à effectuer votre deuxième levée de fonds. Vous visez 500 000 euros. Ça va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Mais quels sont les projets qui sont dans les tuyaux?
Alors, la levée de fonds dont vous parlez, c'est une autre chose. Nous avons choisi d'ouvrir le capital du groupe à nos pharmaciens adhérents. Donc, c'est plus un enjeu philosophique d'alignement plutôt qu'un enjeu financier. Nous représentons effectivement 530 pharmacies. Notre objectif à horizon 2030, c'est de peser 10% du marché officinal. C'est un gâteau qui fait à peu près 50 milliards d'euros. Le groupe fait un chiffre d'affaires sous enseigne de l'ordre de 2 milliards. Donc, il reste 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires à aller chercher. Donc, c'est de la croissance du réseau en recrutant davantage de pharmaciens au sein de notre réseau. Et puis, c'est aussi les aider, ces adhérents, une fois qu'ils sont chez nous, à avoir de la croissance organique au sein de ce marché-là.
Très intéressant. Alors aujourd'hui, votre modèle le plus développé, c'est Aprium. L'an dernier, il y a 60 officines qui vous ont rejoint, justement. Comment est-ce que vous allez les chercher? Comment est-ce que vous les recrutez?
Alors, on a un dispositif assez sophistiqué sur le terrain parce que, naturellement, on va au-devant de nos prospects, au-devant de ces pharmaciens qui ne sont pas groupés. Et donc, nous intervenons de façon régionale. Donc, nous avons une équipe sur le terrain composée de pharmaciens qui sont en exercice et d'équipes qui nous sont propres. Et nous allons frapper à la porte des pharmacies qui nous intéressent pour leur proposer de rejoindre l'enseigne.
Donc vous allez toquer à la porte de pharmacies indépendantes qui prennent ensuite le nom, c'est ça, Aprium Pharmacie. Ça demande un investissement de combien de leur part pour basculer justement?
Alors on ne s'intéresse pas à toutes les pharmacies, on va effectivement plutôt cibler des pharmaciens qui sont sensibles à la stratégie d'enseigne, à la puissance du collectif. Et effectivement, quand vous choisissez de rentrer au sein de l'enseigne Aprium, vous allez avoir un certain nombre d'obligations, notamment l'enseigne, vous l'avez cité, installer le parcours client, répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir développer à la fois la dimension santé de l'officine, mais aussi sa dimension commerciale. Donc le modèle, on va aller le chercher auprès de pharmaciens qui sont sensibles à ces enjeux stratégiques.
Oui, parce que vous soulevez un point intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses pharmacies mettent la clé sous la porte. On va vers un modèle de pharmacie qui se restructure avec plus d'espace de vente sur la parapharmacie. Ça, c'est la formule gagnante, selon vous?
Alors, la formule gagnante, elle repose, comme vous l'avez dit, sur le développement de la dimension retail. Donc, ça veut dire, j'ai une surface de vente, comment je peux l'optimiser, comment je travaille mon parcours client, comment j'enrichis l'assortiment. Mais il y a également un axe à développer qui est l'axe de la santé, parce que les pharmacies Aprium, ce sont des activités qui, à 65% de leur chiffre d'affaires, reposent sur le médicament. Et il y a beaucoup de choses encore à apporter, à développer au sein de ces activités en matière de santé, puisque les pouvoirs publics, depuis la crise sanitaire, ont donné du pouvoir médical aux pharmaciens. Donc la vaccination, le dépistage, ce sont des missions qu'on appelle conventionnelles. Il y a un vrai enjeu pour les pharmaciens d'appréhender ces missions dans les meilleures conditions possibles pour leurs clients, parce que c'est du recrutement de clientèle, c'est également de la fidélisation de leur patientèle.
Isabelle. Et justement, quelles sont les innovations que vous avez mises en place dans vos pharmacies pour améliorer à la fois l'accueil et le parcours client ? Vous avez des exemples à nous donner ?
Oui, on a des exemples qui sont très concrets, en particulier le concept. On vient de sortir un nouveau concept à Prium. On avait déjà travaillé sur ce sujet il y a quelques années. Et donc, c'est un concept qui laisse effectivement la part belle à ces enjeux de communication et d'espace santé. Donc, ça veut dire que typiquement, on va recommander à nos pharmaciens de mettre entre 2 et 3 cabinets de confidentialité. Vous savez, ces cabinets de confidentialité, c'est les endroits où vous êtes vaccinés, par exemple, où on fait les dépistages. Donc, on va faire la part belle au sein du concept à ces espaces de santé. Et de la même façon, on va travailler de façon importante sur la dimension commerce, donc c'est-à-dire travailler le parcours client, travailler les têtes de gondole, la couleur, les codes graphiques. Donc ce sont tous ces sujets sur lesquels on est innovant et ça se matérialise par un concept qui sort de terre dans les semaines qui viennent sur Aprium.
Est-ce que vous avez justement d'autres exemples sur ces services de santé additionnels, puisqu'ici le pharmacien a un autre rôle hein, finalement de conseiller de santé. Vous avez cité les cabines de confidentialité. Il y a quoi ? Il y a des cabines autonomes type, je l'ai plus en tête.
Téléconsultation.
Voilà, exactement, la téléconsultation. L'ophtalmologie aussi.
Alors on ne fait pas d'ophtalmologie. Effectivement, on promeut l'implantation de cabines de téléconsultation parce que c'est effectivement une réponse à la désertification médicale. En revanche, on n'a pas 100% du réseau qui va le mettre en œuvre parce qu'il y a un ensemble de contraintes, mais c'est un très bon exemple. Par ailleurs, on va former les équipes officinales, on va accompagner les pharmaciens pour qu'ils soient en mesure de développer ces fameux protocoles de service, ces fameuses missions conventionnelles, être capable de gérer à la fois un trafic très important au comptoir. À titre d'exemple, une pharmacie à Prium typique, c'est 450 à 500 clients qui défilent tous les jours au comptoir. Donc comment quelles sont mes bonnes pratiques pour que je puisse injecter du service, avoir le temps de parler à mes patients, avoir le temps de faire des vaccinations ou du dépistage. Ce sont aussi des enjeux sur lesquels on accompagne et on forme les équipes officinales.
Ça, ce n'est pas uniquement dans votre nouveau format de pharmacie, celui qui ressemble à un compte. Non, ça, c'est dans toutes les pharmacies.
C'est dans toutes les pharmacies, effectivement, où depuis des années où nous accompagnons nos pharmaciens sur ce sujet. Pardon.
Et donc, c'est un phénomène qui s'accroît. Il y a aussi ce sujet de ce nouveau format de pharmacie type Concept Store que vous avez mis au point. Vous en avez combien aujourd'hui ? Et il me semble que les chiffres sont assez parlants en termes de croissance.
Alors, vous évoquez certainement l'autre enseigne d'Elsi Group qui est Monge, qui est un format d'officine un peu plus important. Donc, Monge est un concept très retailisé. Donc, ça reste une pharmacie dans laquelle on se rend aussi pour du médicament. Mais l'expérience client va être davantage portée sur la dimension bien-être, beauté, donc ce qu'on appelle les compléments alimentaires, la dermocosmétique, pour lesquels on va avoir un assortiment extrêmement large et un positionnement prix assez agressif. Donc ça, c'est l'enseigne Monge. On a effectivement lancé un nouveau concept qui est visible dans certaines villes de France.
Et j'ai noté 6 millions d'euros de chiffre d'affaires versus 3,5 millions pour les plus classiques sur 800 mètres carrés. C'est bien ce concept-là.
Alors effectivement, sur Monge, on va être sur des tailles de chiffre d'affaires qui sont même un peu plus importantes que 6 millions d'euros. On va être plutôt sur 9 à 10 millions d'euros de chiffre. Donc on est vraiment en train de travailler les plus grandes pharmacies françaises. Là où sur Aprium, on est sur une taille moyenne à 4 millions d'euros. Donc ça reste deux fois plus gros que la moyenne des officines françaises.
Pour 800 mètres carrés, ce que vous dites, c'est intéressant, puisque c'est vrai que vous avez cité deux catégories qui performent, la dermocosmétique et les compléments alimentaires. On le voit, hein, notamment sur ce segment-là de l'hygiène beauté, la grande distribution perd des parts de marché que vous récupérez. Comment est-ce que vous adressez justement ces nouveaux segments ?
Alors, effectivement, la beauté, la dermocosmétique, donc les compléments alimentaires sont des catégories qui progressent très bien dans le circuit sélectif qui est celui de la pharmacie, pour une raison simple, c'est que ce sont des univers qui sont boostés par les innovations, donc les nouveautés produits, et quand on lance une nouveauté, il faut accompagner le patient, le client, avec un service, avec un conseil, et donc les pharmaciens sont extrêmement bien placés pour pouvoir délivrer ce conseil, pour deux raisons, parce qu'ils ont une formation technique, scientifique au produit, et par ailleurs, ils ont la crédibilité de la blouse blanche, si vous me passez l'expression, c'est cette croix verte, donc c'est un capital confiance qui fait que les consommateurs, pour des produits un petit peu techniques, comme la dermocosmétique, vont davantage se tourner vers des professionnels de santé plutôt que des parapharmacies dans des centres commerciaux, par exemple.
Mais alors, j'aimerais aborder un point. C'est vrai qu'au niveau des compléments alimentaires, on voit cet essor aussi qui concerne les gummies. Les gummies, ce sont des compléments alimentaires, mais sous forme de bonbons que vous prenez. On voit dernièrement que l'offre a été multipliée par 3 ces 5 dernières années. Justement, c'est un produit qui s'adresse de plus en plus aux enfants. Ça aussi, comment est-ce que le pharmacien, qui est devenu aussi un vendeur, mais comment arrive-t-il à garder sa fiche quand même de conseiller de santé face aux revendications de la santé ?
Alors, les gummies sont un très bon exemple. Effectivement, il y a eu un essor important. Alors, c'est un peu moins le cas depuis 2 ans. Nous, chez Aprium, on conseille le pharmacien sur sa stratégie catégorielle. Donc, quelles sont les catégories de produits qu'il va tenter de mettre plus en avant que les autres ? Et très clairement, les gummies ne font pas partie de nos priorités. D'accord. Pour les sujets que vous avez évoqués, effectivement, on est relativement prudent sur ces sujets. Les pharmaciens nous suivent dans les recommandations et vous allez assez peu les voir dans l'assortiment d'une Aprium pharmacie classique.
Isabelle.
Alors moi, j'ai un sujet qui est encore un peu différent. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment aujourd'hui la digitalisation vient transformer votre manière de travailler. Parce qu'on voit effectivement, les gummies, c'est beaucoup d'offres nouvelles pour les pharmaciens. Donc comment la digitalisation vous aide dans ces nouveaux challenges ?
Alors nous, la digitalisation chez Aprium, on la voit dans la dimension omnicanale du magasin. Donc vous avez une expérience physique et on essaye d'enrichir cette expérience physique, notamment en injectant du digital. Donc c'est le programme de fidélité, c'est un site web serviciel, c'est un site web marchand. Et dans le site web marchand, on va en l'occurrence pouvoir valoriser, mettre en avant certains produits. Donc ça va effectivement répondre aussi à la logique de mise en avant des assortiments de pharmacie.
Ça représente quoi justement le site e-commerce ?
Alors le digital reste relativement faible. On va dire que c'est un outil qui permet d'enrichir l'expérience client en magasin. Nous n'avons pas développé de site web apriumpharmacie.com parce que nous ne nous souhaitons pas faire concurrence naturellement à notre réseau de points de vente physiques. Et il faut savoir que dans l'ensemble du marché officinal, la part des produits qui sont vendus sur le web, c'est une quantité négligeable par rapport à la taille du marché. Donc ça reste un enjeu assez modeste à notre échelle.
C'est, je crois, le sujet de votre focus.
Tout à fait, on va en revenir.
Isabelle, on y reviendra. Une dernière question, Isabelle.
Quelles sont les initiatives en termes de RSE que vous avez au sein du groupe Aprium ? Parce qu'on parle santé, ça fait forcément résonner aussi sur toutes les initiatives que vous pouvez avoir.
Effectivement, alors sur le RSE, c'est un élément qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. Alors il y a deux réponses à ça. La première, c'est sur la plateforme de marque Aprium. Cette plateforme de marque que nous avons conçue il y a quelques années met la femme au centre du dispositif. Je m'explique, c'est 90% de notre clientèle en pharmacie sont des femmes, parce que ce sont elles qui portent ce que nous on appelle la charge médicale du foyer. Donc elles s'occupent de leurs enfants, si elles en ont, de leurs conjoints, de leurs grands-parents. Et donc on a souhaité qu'Aprium ait des attentions particulières pour les femmes, pour les soulager dans cette charge mentale. Ce qui veut dire que nous avons des actions spécifiques en officine, pédagogie, mise en avant de produits, actions de communication ou actions de financement de certaines associations qui ont pour but de soulager cette charge mentale, cette charge médicale. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et l'empreinte carbone d'une pharmacie, est essentiellement liée à la livraison des médicaments. Et donc, nous travaillons depuis de nombreuses années avec nos partenaires logisticiens pour que nous réduisions l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'au lieu de livrer 2 fois par jour la pharmacie en médicaments, nous sommes passés à un tour, ce qu'on appelle un tour, ce qui permet de diviser par 2 l'empreinte carbone de nos amis logisticiens qui approvisionnent les pharmacies Aprium en médicaments. Donc,
Merci
ce sont les 2 actions principales.
Merci beaucoup Emmanuel, on passe tout de suite au focus. Isabelle, on parle beaucoup de l'importance du e-commerce dans les approches omnicanales, mais la pharmacie en ligne, ça semble encore très marginal en France. Comment est-ce qu'on explique ça ?
C'est en effet un paradoxe, parce que historiquement, la pharmacie a toujours essayé de proposer des services de livraison, notamment en zone rurale, un peu comme le médecin de campagne qui allait voir ses patients. Et effectivement, Eva, ça reste très anecdotique. Selon Equivia, seulement 2% des Français commandent des médicaments en ligne. On monte à 3% si on intègre les plateformes comme Amazon. Dans certains pays, comme l'Espagne, l'Allemagne ou la Pologne, les ventes en ligne explosent puisque ça permet de déstigmatiser certains produits. Mais en France, on reste attaché à notre relation avec notre pharmacien.
Justement, la pharmacie, c'est un commerce de proximité qui est vraiment très spécifique.
Ah oui. Bah, le numerus clausus nous entraîne une densité territoriale importante, puisque c'est plus de 20 000 officines. C'est 30 pharmacies pour 100 000 habitants. Donc, c'est vraiment un commerce qui est dans le quotidien des Français, un peu comme la boulangerie. On a des horaires qui sont larges, un service qui est central, et on a une relation qui s'établit sur la confiance et la proximité. Et la confiance des Français, elle est vraiment sur le point physique et l'échange humain, y compris dans la livraison où on va se faire livrer dans notre officine habituelle.
Et pourtant, il y a aussi une évolution dans le sens où on n'est plus sur des pharmacies de petite taille, type épicerie de proximité. Et là, on va vraiment vers des grands formats, c'est ce qu'on disait.
Ah bah, on est obligé, le marché évolue, la concurrence s'intensifie, notamment avec les parapharmacies des grandes surfaces. Donc, on a besoin de diversifier les services proposés. La pharmacie, ça devient vraiment un espace de service. On en parlait à la fois pour la téléconsultation, la vaccination, beaucoup de nouveaux services proposé. Ceci, ça a été encouragé par toutes les réformes et ça a massivement augmenté le trafic dans les pharmacies. Ce trafic, ça a permis d'augmenter la partie vraiment vente libre qui représente aujourd'hui un peu plus de 14,9 milliards d'euros. Et ce sont des nouvelles opportunités pour les groupements de pharmacies puisque jusqu'alors, ces ventes, c'était que des marques nationales. Mais aujourd'hui, 90% des enseignes proposent leur marque propre. Nouveau challenge maintenant, c'est comment on définit le bon assortiment. Et c'est ce qu'ils sont en train de s'équiper.
Merci beaucoup Isabelle. Sans plus attendre, on passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et Guillaume Baraton nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue Guillaume. Vous êtes le cofondateur de Morphée, une sleep tech que vous avez créée en 2017. Alors vous concevez des produits, des dispositifs qui se veulent déconnectés, donc sans écran, sans application, et tout ça pour faciliter le quotidien des Français, notamment sur le sommeil. Alors c'est vrai que ça tombe bien, vendredi c'était la journée du sommeil, international du sommeil. Les Français ne dorment pas assez, 6h50 en moyenne, on a perdu en un an 4 minutes de sommeil. Vous, en quoi consiste votre solution? Ça s'appelle Morphée. Donc déjà, c'est en lien avec le sommeil.
Exactement. En fait, on a plusieurs solutions pour le sommeil. Morphée pour les adultes et petit Morphée pour les enfants. Et en fait, à l'intérieur de ce produit-là, il y a des séances de sophrologie, de méditation qu'on va écouter le soir pour s'endormir. Et en fait, on va juste écouter la voix qui nous guide et qui va nous inviter à revenir sur notre corps et sur notre respiration. Et en fait, juste de faire ça, de revenir sur le corps et la respiration, ça arrête le flux de pensée. Ça arrête les cogitations qui nous empêchent de nous endormir le soir. Et donc, ça permet d'avoir un sommeil plus rapide et surtout profond, de bonne qualité et pas de se réveiller à 3 heures du matin avec ce flux de pensée qui nous empêche encore de nous rendormir.
Alors, c'est un petit boîtier physique. Ça ressemble à la taille d'un réveil. Pourquoi avoir choisi de créer un objet de toute pièce alors qu'on a déjà des dizaines d'applications qui existent sur le marché? La plus connue, c'est Petit Bambou qui, justement, a des exercices de relaxation au quotidien, de la cohérence cardiaque, etc.
Alors en fait, ce produit aujourd'hui, il est utilisé par 500 000 personnes en France. Et c'est vrai que ce qui plaît en fait à nos clients, c'est justement qu'ils soient déconnectés. Parce que le smartphone, c'est juste le pire ennemi du sommeil. Le smartphone, c'est la lumière bleue, les notifications, c'est l'agitation tout le temps. Donc le smartphone, sa vraie place la nuit, c'est en dehors de la chambre. Après, on prend son Morphée, on sélectionne un thème. Donc ça peut être de la sophrologie, ça peut être du body scan, ça peut être des voyages immersifs. Après, on sélectionne une séance. On sélectionne si c'est une femme ou un homme qui va nous guider. On sélectionne la durée, 8 ou 20 minutes, après ça s'éteint. Et on se laisse guider par la voix, on revient sur notre corps, on arrête notre flux de pensée et on s'endort facilement et profondément.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ça s'arrête automatiquement, on n'a pas besoin de... Donc c'est-à-dire que si on s'endort, il n'y a pas de problème.
Exactement.
Emmanuel, justement, on parle du sommeil. Ça, c'est un segment aussi qui fonctionne dans les pharmacies, qui se développe.
Effectivement, le sommeil, c'est le mal du siècle, si je puis dire. C'est aussi ce qui dynamise les compléments alimentaires dont on parlait. Beaucoup de compléments alimentaires.
De mélatonine.
De mélatonine, effectivement. Et donc, ils sont des réponses chimiques. Donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir une réponse différente en complément de ce qui est vendu en pharmacie.
Vous vendez ce genre de device, vous, dans
les
pharmacies?
Alors, je ne crois pas. En tout cas, j'ai compris que...
On en vend aussi dans des pharmacies, en effet.
Vous êtes présent dans les pharmacies,
vous êtes présent
dans un millier de points de vente. Chez qui est-ce qu'on vous trouve?
Alors, on est présent sur notre site internet, morphée.co. Ensuite, chez nos distributeurs historiques, Nature et Découverte, Boulanger, Cultura. Et après, dans 1000 points de vente, des concept stores, par exemple, ou des vendeurs individuels, et une centaine de pharmacies.
Donc, votre stratégie retail, c'est plutôt des points de vente physiques, hein, puisque l'e-commerce, c'est 25% exactement. De votre chiffre d'affaires. Justement, vous êtes présent dans des pharmacies, mais c'est quoi le segment sur lequel vous voulez appuyer, justement, en termes de retail ?
En fait, le segment qui m'intéresse le plus, quelque part, c'est à la fois le site, parce que malgré tout, le site est en pleine croissance, et à la fois de renforcer notre présence chez nos distributeurs historiques, et à la fois, en fait, on s'est rendu compte, on a commencé dans les pharmacies il y a à peu près 2 ans, on s'est rendu compte que c'est un marché qui fonctionne très bien, donc en effet, on est de plus en plus présent chez les pharmacies.
Mais pourtant, vous avez un positionnement assez élevé quand même.
En termes de prix ?
Oui, en termes de prix.
Tout à fait. Morphée, c'est 99 euros, mais une fois qu'on l'a, on peut l'utiliser pendant 5 ans tous les soirs. En fait, comme je vous disais, il y a 500 000 personnes qui l'utilisent, mais qui l'utilisent tous les soirs pour s'endormir. Et mon petit Morphée, c'est pareil, c'est des histoires qui permettent de calmer l'enfant avant de se coucher. Donc il commence par 1 minute de relaxation, après il y a une histoire, l'enfant choisit son animal, il choisit où est-ce qu'il envoie l'animal. Et celui-ci, donc c'est 192 histoires apaisantes et musique douce, et il coûte 79 euros.
Alors c'est vrai qu'à vous entendre, ça paraît assez prometteur. J'ai dans l'oreillette un réalisateur qui serait très très intéressé, qui vient d'avoir un bébé. Mais la question que je me pose, c'est finalement, est-ce que vous appuyez sur des études scientifiques ?
En fait, nous on l'a créé, en fait moi au départ, c'est moi qui ai des problèmes de sommeil, qui ai fait beaucoup de méditation, je me suis rendu compte que de méditer quelques minutes le soir, ça permet en effet d'arrêter de se penser et de super bien dormir. Mais en fait, tout ce qu'on a mis dedans, ça existe déjà. C'est des séances de méditation, de sophrologie. Et depuis 10 ans, il y a des centaines d'études qui prouvent l'efficacité sur le bien-être de la méditation. Et c'est vraiment des études scientifiques qui mettent en avant...
Et du coup, votre consommateur cœur de cible, il ressemble à quoi ? C'est qui ?
Notre consommateur cœur de cible, c'est une maman qui a entre 30 et 65 ans.
C'est large.
95% des ventes sont auprès des femmes sur le site.
Et du coup, votre roadmap produit, elle va s'enrichir comment ? 2026, 2027, on pense à quoi ?
Alors, déjà, donc ces deux-là, c'est quelque part nos meilleures ventes depuis 6 ans. Et là, on a lancé en décembre dernier 2 réveils et qui cartonnent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des réveils qui vont nous réveiller de façon positive. C'est-à-dire qu'on va avoir un stimulateur d'aube, donc une lumière qui va venir progressivement nous réveiller. Ensuite, on va avoir le son des oiseaux ou un son de la nature qu'on choisit. Et à l'intérieur, il y a 365 affirmations positives. Donc, on va se réveiller avec une voix qui va nous donner une citation positive ou une affirmation positive. Et on a la même version pour les enfants qui, pareil, nous réveille avec de la lumière et des sons des oiseaux, des sons de la nature. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a des fun facts, donc des faits amusants. Tous les matins, l'enfant se réveille avec une nouvelle découverte quelque part. Et en fait, ces deux produits, on les a sortis en décembre, et depuis décembre, donc là on est en mars, ils ont été 2 fois rupture de stock, et donc on a du mal à gérer le stock, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin de se réveiller sans le bip-bip du téléphone, d'ailleurs le téléphone, sa vraie place, c'est en dehors de la chambre, et sans l'actualité du vieux radio-réveil, plutôt anxiogène.
Mais pourtant, ces réveils avec la lumière, je ne sais pas, ça s'appelle d'ailleurs la lumière comment ?
C'est un simulateur d'aube.
Ça existe déjà, Guillaume.
Ouais, ça imite déjà. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est les contenus audio qui est à l'intérieur, c'est-à-dire une voix qui va vraiment nous réveiller avec une affirmation positive. Mais pour les enfants, enfin, je vous invite vraiment à regarder les commentaires qu'on a sur le site, parce que c'est vraiment le réveil. Il y a souvent des commentaires qui disent c'est le réveil dont je rêvais, qui me réveille de façon positive le matin.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut pour accélérer ? C'est quoi votre business model ? Qu'en est-il de votre croissance ?
En fait, là, on est en pleine croissance, c'est-à-dire qu'on a 2 axes pour notre croissance, c'est l'international et le développement d'innovation. Donc là, on a Enfin, c'est déjà nos best-sellers, ceux-là.
Quand vous dites développement de l'innovation, c'est-à-dire vous avez un laboratoire en interne ?
Oui, on a une petite équipe en interne avec des ingénieurs qui pensent, et moi d'ailleurs, et puis d'ailleurs on travaille avec notre communauté parce qu'on est 140 000 sur Instagram, et je vous invite à nous retrouver sur Instagram. Donc on co-crée des produits avec notre communauté, et cette année on va lancer 3 nouveaux produits à destination des enfants, toujours des produits qui contiennent de l'audio, toujours réalisés par des professionnels. Donc ça va être une peluche qui permet à l'enfant de s'endormir avec des sons de la nature, un timer qui permet à l'enfant de gérer son temps, par exemple le brossage de dents, la douche. La particularité, c'est qu'au début, quand il lance la durée, il va avoir une petite question sur un fait, et à la fin, il va avoir une réponse.
C'est marrant que vous vous concentriez sur le segment des enfants, puisqu'avec quand même le vieillissement de la population, l'évolution sociétale, on va vers une population qui vieillit. Pourquoi ne pas vous adresser aux personnes plus âgées, aux seniors ?
Alors, figurez-vous que c'est encore, ça n'est plus maintenant, mais on prépare aussi un produit pour les seniors.
Bon, bah, très bien, bah, vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup,
Merci
Guillaume.
Beaucoup.
On passe tout de suite à l'actu de la semaine.
Au revoir.
Isabelle, on l'a vu dernièrement, le youtubeur Thibaut InShape a lancé sa marque de protéines, qui est arrivée d'ailleurs dans les magasins Intermarché. On voit de plus en plus ce genre, ce type de produits riches en protéines dans les supermarchés. D'où est-ce que vient cet engouement ?
Ah bah oui, c'est une lame de fond, hein. Les produits hyperprotéinés explosent en termes de performance. On va dire l'alimentation fonctionnelle au sens large représente en 2025 2,4 milliards d'euros selon Nielsen IQ. Au départ, c'était un marché de niche réservée vraiment pour les sportifs. Ça s'est complètement démocratisé et ça s'est étendu au-delà des produits frais puisqu'on a des marques comme Barilla ou Donna qui investissent ce segment.
Babybel.
Ou une enseigne comme Babybel, tout à fait. Et une enseigne comme U qui a lancé aussi sa propre gamme. Donc on est vraiment dans la même dynamique que le bio ou le végétal il y a quelques années, c'est-à-dire que c'est un moyen d'innover à la fois et de se diversifier et de se différencier pour les marques comme pour les enseignes.
Ça veut dire que les influenceurs, là-dedans, ils ont un rôle à jouer. Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux ?
Ah oui, carrément, ils ont même un rôle central. Sur cette tendance de l'hyperprotéiné, ce sont même eux les leaders de cette tendance. Tu parlais de l'exemple de Thibaut. Eh bien, sa marque, elle est effectivement très bien référencée dans les supermarchés. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est que ces marques, elles sont portées par des personnes en qui les consommateurs ont confiance. Puisque aujourd'hui, les consommateurs français ont beaucoup plus de confiance auprès des producteurs de contenu que par moment des institutionnels ou des professionnels.
Ça pose quand même des questions, hein, puisque on l'a vu aussi, les produits protéinés s'invitent dans le segment des enfants, notamment avec les céréales. Justement, vous nous parlez des influenceurs. Comment est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance ?
Ben, c'est un peu tout le problème et c'est bien un peu tout le débat, puisque les nutritionnistes en France expliquent que déjà, normalement, avec une consommation normale, on consomme suffisamment de protéines. Donc, ces produits ne sont pas indispensables. Mais c'est là où tout est l'enjeu de l'influence, où aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus influencé par ces influenceurs, en l'occurrence, ces créateurs de contenu, que par des nutritionnistes. Donc, et aujourd'hui, les marques comme les distributeurs s'en emparent. C'est un vrai outil marketing.
Merci beaucoup, Isabelle. Faites attention quand même. Hein, tout n'est pas bon à prendre dans les produits protéinés. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau rendez-vous. On parlera grande distribution et j'aurai le plaisir de recevoir Thierry Cotillard du groupement Les Mousquetaires. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi dans la matinale de BFM Business. Bon week-end.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.